Merci, Monsieur Morisseau. Comme je suis une personne politique, je vais commencer par vous citer. Donc, en 1994, lorsque votre livre, Les fermiers de l'Île-de-France du 16e, du 15e au 18e siècle, est paru, vous vous êtes senti obligé de vous justifier d'avoir entrepris, en 1980, une étude d'histoire agraire. Et vous disiez qu'à cette époque, faire de l'histoire agraire pouvait sembler être une démarche surannée. En regardant la réédition de votre livre en 1998, vous avez fait un avant-propos et votre jugement sur la santé de l'histoire rurale en France s'était amélioré. Et vous concluiez que l'histoire rurale se portait en 1998, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, se porte mieux qu'elle ne se portait au début des années 80. Alors, j'ai moi aussi commencé ma carrière d'historienne rurale à la même époque. J'ai fait d'abord un mémoire de maîtrise sur l'institution seigneuriale au Canada. Et ensuite, j'ai entrepris une monographie d'histoire régionale sur le modèle des grandes monographies d'histoire rurale régionale. Alors, donc, l'histoire rurale française se porte bien. Je voudrais en dire autant pour l'histoire rurale au Québec, mais ce n'est pas du tout le cas. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure et que Jean-Marc a répété, si je regarde autour de moi, dans les gens qui s'intéressent à l'histoire rurale pour la période pré-industrielle, sur le territoire qui recouvre le Canada du régime français, c'est-à-dire essentiellement les rives du Saint-Laurent et par extension le reste du Québec, pour l'époque pré-industrielle, je crois que nous ne sommes plus que deux, un peu comme Astérix et Obélix, mais version canado-québécoise et version historique. Ce que vit l'histoire rurale actuellement, en fait, c'est avec 20 ans de décalage, un peu la même crise qu'a vécu l'histoire rurale au début des années 80, mais avec 20 ans de décalage. On a eu une période très faste entre la publication de deux ouvrages extrêmement importants. D'abord, une monographie de l'île de Montréal qui touchait non seulement la zone rurale, mais également la ville, habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, de Louise Deschaine, parue en 1974. Et l'œuvre maîtresse, aboutissement de 20 ans de recherche de Gérard Bouchard sur la région du Saguenay, que quelques auditeurs ici connaissent bien, quelques arpents d'Amérique. Population, économie, famille au Saguenay, 1838-1871, ça c'était en 1996. Alors, entre ces deux dates, l'histoire rurale faite au Québec et au sujet du Québec était en santé. Il y a eu un certain nombre de monographies régionales qui sont parues. Il y a des thèses également qui ont été faites à ce moment-là sur le modèle de la monographie régionale. Les travaux étaient menés sur le 17e et le 18e siècle, mais aussi sur le 19e et le 20e siècle. Pas tellement sur la longue durée, parce que c'est curieux, mais les historiens québécois ne travaillent pas tellement sur la longue durée, malgré que notre histoire soit très courte. Nous nous trouvons maintenant avec une histoire rurale qui ne connaît pas beaucoup d'avancées depuis le milieu des années 1990. Et je vais peut-être, ce que je vais vous raconter au sujet du faire valoir indirect au Canada sous le régime français au 18e siècle, va peut-être vous étonner par sa banalité. Mais je vous jure que c'est du matériel neuf et que personne n'a jamais abordé cette question. Parce que les ruralistes de la période faste ont surtout travaillé sur des monographies régionales, sur les paysans propriétaires, parce que les paysans étaient largement propriétaires du sol au Canada au 18e siècle. Et aussi pour des raisons méthodologiques, vous le savez bien, il est beaucoup plus facile d'étudier des gens qui sont stables, propriétaires que des gens qui sont, par définition, des gens mobiles. L'image qui s'est dégagée de l'historiographie de l'ensemble de ces travaux, ça a été celle d'une paysannerie largement propriétaire du sol. Je vous donne quelques exemples, ici tirés du livre de Louise Duchesne. Je ne vais pas vous assommer de chiffres tirés d'autres ouvrages, mais vous voyez bien qu'au XVIIe siècle, sur l'île de Montréal, les paysans sont largement propriétaires du sol. Ici, ça porte sur le nombre des propriétés, mais sur l'île Jésus, qui est au nord, les calculs portent également sur les superficies et vous voyez que ce qu'on peut assimiler à la paysannerie possède 80% du sol de cette seigneurie qui est située juste au nord de l'île de Montréal. Je vais vous la montrer tout à l'heure d'ailleurs. On croyait que ces paysans étaient relativement égaux entre eux. Ça a donné lieu, l'égalité entre paysans propriétaires ou l'inégalité entre paysans propriétaires a donné lieu à des débats assez nourris, dont j'ai fait partie. Et je crois pouvoir dire que mon camp, notre camp, a triomphé. On ne croit plus à l'égalité entre paysans propriétaires, on croit à une hiérarchie basée sur des stratégies relativement complexes, mais ce n'est pas mon propos. Mais comme la production agricole était essentiellement assumée par les fameux paysans, on croyait que dans ce monde presque idéal, il n'y avait pas de prolétaires ruraux et qu'il n'y avait pas de faire-valoir indirect. Concernant le faire-valoir indirect qui occupe ma communication, on le voyait comme une situation marginale qui intéressait essentiellement de jeunes hommes en attente de cultiver leurs propres exploitations. Donc, tout à fait le contraire des fameux fermiers de l'Île-de-France étudiés par Jean-Marie. Un séjour sur une terre déjà défrichée, prise en métayage, pouvait être une option attirante pour un jeune homme démuni de capital qui, parallèlement aux tâches effectuées sur l'exploitation louée, pouvait consacrer du temps, surtout pendant l'hiver, à couper des arbres, à abattre la forêt sur la propriété qu'il s'était fait concéder par un seigneur. Louise Duchesne écrivait donc en 1974, dans l'ouvrage que j'ai évoqué tout à l'heure, « Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle », que les locataires d'exploitation étaient des propriétaires en puissance. Passé quelques années pour ces propriétaires en puissance, ces jeunes gens avaient des avantages évidents. Un revenu, un toit sur sa tête, un matériel d'exploitation, la possibilité peut-être de gagner quelques têtes de bétail. D'où un système qui, compte tenu du manque de ressources des locataires, est plus assimilable à un métayage qu'à un vrai fermage. D'où des locataires jeunes, instables, et probablement peu portés à soigner une terre qu'ils vont abandonner dès qu'ils le pourront. Pas de problème pour les propriétaires pour trouver des preneurs. L'immigration leur fournit des bras à chaque année. Dans ce livre, « Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle », qui a lancé les études rurales au Québec, Louise Duchesne avait cependant eu une intuition. Elle avait entrevu la naissance au milieu du XVIIIe siècle d'un groupe de locataires plus stable, ayant définitivement choisi la voie du faire-valoir indirect, et se retrouvant à la tête d'exploitation leur fournissant une terre et un équipement comparable à celui des paysans propriétaires. Naissance, disait-elle, reflétée par l'apparition ici et là dans les actes notariés du mot « laboureur ». C'est cette piste de recherche que j'ai choisi de privilégier. À partir de ma thèse de doctorat, qui était une monographie d'histoire régionale dont j'ai parlé tout à l'heure, il m'est apparu, en regardant les baux, qu'au XVIIIe siècle, il y avait une grande diversité dans la nature des biens ruraux qui faisaient l'objet de location et que chaque type de bien pouvait attirer des locataires différents. Donc, à côté de terres plus modestes, susceptibles d'être louées par des individus dénués de capital, je voyais de plus en plus apparaître de grosses exploitations dont la prise à ferme exige des moyens financiers importants ne serait-ce que pour fournir une garantie au propriétaire. Sans être dominant, ce phénomène m'apparaissait très courant dans les zones de colonisation anciennes, c'est-à-dire les zones cultivées depuis une soixantaine d'années, dont le défrichement avait commencé environ une soixantaine d'années précédentes. Donc, l'hypothèse qui a guidé ma recherche, c'est la possibilité que progressivement, au 18e siècle, se soit formé un groupe de laboureurs qui ont définitivement choisi de cultiver la terre d'autrui et qui, par cette stratégie, ont atteint une certaine aisance économique. Et ce qu'on pourrait, ce que l'hypothèse suggérait aussi, c'est qu'on aurait une espèce de différenciation à l'intérieur du groupe des locataires de biens ruraux. D'une part, des laboureurs relativement aisés, qui côtoient des individus dont la situation s'apparente à celle des journaliers. Je vous préviens que ce que j'ai envoyé il y a plusieurs mois comme résumé et ce que je vais vous raconter est largement différent. Ce que je vous présente, ce sont des résultats d'une recherche qui commence. Cette carte représente la vallée du Saint-Laurent. Pour vous repérer, vous avez l'île d'Orléans, la ville de Québec, le lac Saint-Pierre et la région de Montréal. La recherche va s'étend donc sur la période 1720-1780 et elle est réalisée dans trois seigneuries différentes. Celle qui est en vert foncé, c'est évidemment l'île de Montréal, qui est une seigneurie qui appartient au séminaire de Saint-Sulpice. Celle qui est en vert plus clair, au nord, c'est la seigneurie de l'Île-Jésus, qui appartenait au séminaire de Québec. Et celle qui est en bleu et qui est sur le bord de la rivière Richelieu, on voit d'ailleurs le début du lac Champlain ici, c'est la seigneurie de Chambly. Pourquoi ces trois terrains d'enquête, ou enfin ces terrains d'enquête? J'ai voulu couvrir des régions différentes de par leur ancienneté et de par leur localisation face au marché, parce que je crois que ces deux réalités peuvent être des facteurs importants dans l'apparition de laboureurs aisés. Avant qu'une région puisse compter des exploitations de bonne taille, il faut au moins que la région, que les premières terres aient été concédées depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai ici deux situations. La situation de l'île de Montréal, où les terres autour du premier petit regroupement sont concédées dès les années 1640. Et les terres à la périphérie sont concédées au 18e siècle. L'île Jésus, elle, va avoir quelques concessions de terre à la fin du 17e siècle, mais c'est réellement seulement au 18e siècle que la colonisation va commencer réellement. On peut dire la même chose pour la seigneurie de Chambly. Donc, à Montréal, près du noyau urbain, une agriculture qui se fait sur des terres qui sont défrichées ou dont le défrichement a été entrepris au début de mon enquête, presque 60 ans plus tôt. Et dans les deux autres régions, une installation humaine et des défrichements beaucoup plus récents. Deux approches distinctes, mais complémentaires, sont privilégiées dans mon étude. La première consiste à dresser un tableau du faire-valoir indirect classique, par une analyse sérielle des baux à ferme pour l'ensemble de la période 1720 et à 1780. La seconde consiste à s'intéresser plus particulièrement aux preneurs identifiés dans les baux contractés lors de la première décennie 1720-1729 et la dernière décennie 1770-1779. Vous aurez compris qu'ici, le facteur, on est en pays de colonisation, l'ancienneté de l'installation est un facteur extrêmement important et la situation, je vois déjà, même si je ne ferai pas d'analyse à partir de conjoncturelle, je vois déjà d'énormes changements entre 1720, 1729 et 1770, 1779. L'objectif final de l'étude des locataires, je vais les appeler comme ça pour le moment, c'est de réaliser une biographie collective, d'ouvrir pour chacun d'entre eux un dossier retraçant leur itinéraire socio-économique à partir des actes notariés et à partir des registres paroissiaux. Le choix des variables n'est évidemment pas limité, mais compte tenu de ma problématique, les indicateurs à privilégier me semblent être la valeur et le type de bien reçu de la génération précédente et le moment dans la vie de l'individu locataire où s'est passée la transmission du patrimoine entre les deux générations. Le nombre, la valeur, la capacité productive, si tel est le cas, des terres possédées par ces individus, sont-ils des propriétaires? Le niveau et la composition de la fortune dans l'inventaire après décès. Et bien sûr, tout cela va reposer sur la reconstitution des familles, la famille de la génération précédente et la famille même des locataires. Je compte également étudier la mobilité de ces gens. Par définition, on peut penser que les locataires d'exploitation sont plus mobiles que les paysans propriétaires. Et simplement en regardant rapidement les données, et généralement les analyses, quand elles sont faites, confirment les impressions qu'on a quand on regarde les données, j'ai l'impression que la majorité de mes locataires d'exploitation étudiés de plus près ne meurent pas dans la paroisse où ils ont pris, où je sais qu'ils ont pris une terre à fermer. Évidemment, tout ceci est loin d'être réalisé. Et ce que je vous présente, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fruit du travail que j'ai pu consacrer ces derniers mois à la recherche. J'ai d'abord dépouillé en archives 1676 baux de location pour les trois régions concernées par l'enquête, entre 1720 et 1769. Parmi ces baux, il y en a environ 75 à 80 qui portent sur des terrains exclusivement horticoles. J'ai déjà publié sur la question il y a plus de 20 ans, et donc je les retire de l'analyse en cours. Donc l'étude va porter sur environ 700 baux contractés pour la location d'exploitation complète, avec ou sans cheptel, de terres labourables qui ne portent pas de bâtiment, ou bien ne portant qu'une grange, et de terres de biens fonciers de différents types, comme des prairies, par exemple. Actuellement, j'ai informatisé seulement 210 baux. Et ils se répartissent de la façon suivante. J'ai informatisé tous les baux de la première décennie. J'ai informatisé ensuite de ça les baux produits par certains notaires. Et j'ai à peu près informatisé tous les baux de la dernière décennie. Si vous trouvez anormal que le nombre de terres louées dans les trois régions soit moindre entre 1770 et 1779 qu'en 1729, alors qu'on pourrait évidemment logiquement croire que c'était le contraire, je me fais la même remarque. Je l'avais noté pour les terrains horticoles et je me demande encore comment expliquer le phénomène. Ce dont je vais vous parler, c'est le résultat de l'analyse d'environ le 30% des baux existants dans les greffes de notaires. Je passe à l'analyse de ces baux, et la première étape consiste à identifier qui sont les acteurs du faire-valoir indirect. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les preneurs, et je vais pour le moment surtout regarder du côté des bailleurs. Alors, si on regarde la répartition professionnelle des bailleurs, celle-ci est à la fois sans surprise et à la fois surprenante. Je dirais sans surprise parce qu'on voit que ce sont des non-paysans qui dominent le groupe des cas connus. Il y en a 92 sur 125 ou 74%. Et il est normal que ces gens, artisans, petits commerçants, marchands ou bourgeois, nobles, seigneurs, communautés religieuses, affirment leurs biens fonciers. L'intérêt pour eux, surtout les particuliers, je ne parle pas des communautés religieuses, ce n'est pas tant d'accumuler les terres. On a vu que la propriété est surtout paysanne, parce que la rente foncière est pas très forte. Et donc, l'intérêt pour la plupart, c'est diversifier un peu leurs investissements, mais aussi, et on va voir tout à l'heure que par les types de paiement, c'est aussi s'assurer un approvisionnement à l'abri du marché, à l'abri des crises de cherté. Et je crois que, fondamentalement, ça est aussi une espèce d'héritage culturel de la France, c'est-à-dire avoir de la terre, c'est un bon investissement. Mais la plupart de ces bailleurs n'achètent pas constamment des propriétés pour les faire valoir par d'autres. J'ai dit sans surprise, mais aussi surprenant comme résultat. Ce que je trouve surprenant, évidemment, c'est le très grand nombre de cas des inconnus, 96 sur 221. Bon, il y a 210 baux, mais évidemment, il y a des baux où il y a plusieurs bailleurs. Si on admet assez facilement que les notaires sont souvent négligents pour inscrire le mot « habitant », qui au Canada d'alors identifie les paysans propriétaires, et a fortiori les jeunes gens qui viennent du milieu rural mais qui n'ont pas de terre, c'est assez surprenant donc qu'il y ait autant de cas d'inconnus lorsqu'on s'attend à rencontrer des notables, des nobles, des marchands, des bourgeois, etc., etc. C'est-à-dire que ces cas inconnus regroupent des paysans non identifiés. Une partie de la réponse réside dans la nature des biens loués. Alors, en passant, on peut remarquer que c'est sans surprise, évidemment, l'île de Montréal compte le plus grand nombre de terres à fermer. Et dans les biens loués, j'ai fait une répartition, exploitation complète, c'est-à-dire une maison, des bâtiments de ferme, de la terre labourable, le plus souvent une prairie, des terres sans bâtiment ou ne portant qu'une grange, des parcelles faisant partie d'un plus grand terrain, et il y a deux cas où finalement ce qui est loué est identifié très clairement comme étant une prairie. Ce qui explique le plus grand nombre d'inconnus dans les bailleurs, ce grand nombre d'inconnus dans les bailleurs, ce n'est pas tellement ceci, mais je voulais pour la compréhension du reste que vous voyez le tableau. C'est plutôt ceci. Toujours avec la même catégorisation, j'ai fait la distinction entre ce que j'ai appelé, à défaut de mieux, des biens fonciers normaux et des biens qui finalement sont soit des parts successorales appartenant à des enfants, soit des exploitations qui sont louées par la veuve en attendant que les enfants mineurs soient en mesure d'appeler le partage. Et on voit qu'on a cette situation dans 40 des cas de location d'exploitation complète sur les 136. Et donc, on voit que les biens successoraux forment une partie importante de ce qui apparaît sur le marché de la location. J'ai continué mon enquête en distinguant entre toujours les quatre types de biens loués, toujours entre les biens fonciers normaux et les biens successoraux. Et le but de la démonstration, c'est de vous montrer où se concentrent les cas inconnus, c'est-à-dire que sur les 221 bailleurs, il y en a 59 dont la profession est inconnue, mais qui louent des biens successoraux. La question que je posais tout à l'heure est maintenant résolue. Je crois, sans trop de problèmes, pouvoir dire que sous ces inconnus se cachent des bailleurs paysans. En abordant la question de l'identité des bailleurs, j'ai déjà donc répondu en grande partie à ce qui va maintenant m'occuper, c'est-à-dire qu'est-ce qui est loué, quelle est la nature des biens loués. Le cas des exploitations que j'ai appelées complètes est le plus courant, c'est-à-dire 136 baux sur les 210. Et c'est peut-être le plus simple. On loue une exploitation avec ses terres labourables, ses bâtiments de ferme, une maison et le plus souvent le cheptel vif et le cheptel mort. La superficie de ces exploitations n'est pas toujours mentionnée parce que l'habitude canadienne de concéder et d'occuper des terres sans appantage conduit à des descriptions ne donnant bien souvent que la largeur des terres. Et on ne connaît pas exactement la profondeur de ces terres. Difficile, évidemment, dans ces circonstances, de hiérarchiser l'importance de ces exploitations. Mais aurait-on toutes les superficies, qu'on ne serait pas tellement plus avancé? Parce qu'il y a une chose dont il faut se souvenir constamment lorsqu'on fait l'histoire rurale de cette période 17e, 18e siècle. C'est que la superficie d'une propriété ne veut à peu près rien dire. Seul compte l'étendue des terres labourables et des prairies qui ont été créées sur ces terres. Or, la mesure des terres labourables, la mesure des prairies n'est à peu près jamais donnée par les notaires, ni dans les baux, ni non plus dans les actes de vente, qui sont très peu nombreux d'ailleurs, ni non plus dans les inventaires après décès. On se repose sur la connaissance que les gens ont de ces superficies. Évidemment, cette situation rend assez difficile l'opérationnalisation de mon hypothèse de recherche. Parce que je disais à des exploitations différentes, plus ou moins importantes, plus ou moins conséquentes, correspondent sans doute des bailleurs différents. Est-ce que j'étais pour renoncer? Non, bien sûr. Je suis une irréductible obélix. Peu de baux indiquent l'étendue des terres labourables, mais un plus grand nombre d'actes décrivent le cheptel. Parce qu'on est ici dans des situations où le cheptel est la plupart du temps fourni par le propriétaire. Certains actes indiquent par ailleurs les quantités de semences lorsque le bailleur les a avancées pour la première année. Alors, à partir de ces indications, en utilisant les actes où il y a au moins des renseignements qui apparaissent, je pense qu'il va être possible de faire des catégories générales sans obtenir une mesure extrêmement précise, mais finalement pouvoir dire « voici une grande exploitation, voici une exploitation moyenne, voici une petite exploitation ». En terminant sur ce point méthodologique, je pourrais dire que la situation est la même pour tout ce qui est loué, pas seulement les exploitations que j'ai dites complètes, mais pour les terrains, les prairies, les entités louées sans qu'il y ait des bâtiments. Ici, seul le prix du bail, lorsqu'il est donné, lorsqu'il est fixe, peut peut-être donner une indication sur l'étendue des terres labourables. C'est le cas, par exemple, lorsque on met en location des parts de mineurs. Les parts de mineurs, lorsque c'est le cas, c'est donné aux enchères et c'est le dernier et plus fort enchérisseur qui gagne et on a un montant fixe en nature qui doit être payé par le preneur. Et ça devrait permettre aussi de catégoriser ces terrains qui ne portent pas de bâtiment et qui sont loués sans cheptel. Revenons donc à mes exploitations que j'ai appelées complètes. Il est certain, et vous le voyez sur le tableau que je vous présente ici, que leur taille varie beaucoup. À titre d'exemple, comparons trois exploitations dont le bail a été fait par un notaire très zélé qui s'appelle Doulon-Desmarais, et qui nous donne la superficie de la propriété, la superficie en terre labourable. Le cheptel très très bien décrit avec l'évaluation, et on voit ici qu'on a, disons, trois catégories d'exploitation. Une quand même avec 71 arpents de terre labourable, l'autre avec 30, et l'autre environ, c'est marqué de 15 à 20, on n'est pas très sûr. Et on voit également que la taille du cheptel correspond, reflète l'étendue des terres labourables. Ce que je peux vous dire, c'est que les 71 arpents de terres labourables, ça correspond à la situation de la minorité les plus riches parmi les paysans. 30 arpents en 1753, c'est une très bonne exploitation. La plupart des paysans sont plutôt propriétaires de quelque chose qui ressemble à la troisième exploitation, c'est-à-dire de 15 à 20 arpents de terre labourable. Ça correspond d'ailleurs à peu près à la limite d'autosuffisance pour une famille de 2 adultes et de 4 enfants. J'ai fait une petite projection en utilisant une semence de 1,5 minot à l'arpent, ce qui semble être vraisemblable, en assolement biennal, et vous voyez un peu le même type de grosse exploitation, celle de 77 arpents de terre labourable. 56 arpents de terre labourable, c'est au-dessus de ce que possèdent généralement les paysans. 30 arpents vers la fin de ma période, c'est ce que possèdent les paysans qui sont dans la moyenne. Mais 30 arpents, c'est beaucoup, c'est une grosse exploitation pour la période où elle est louée, c'est-à-dire 1719. À côté de ces propriétés, somme toute, assez confortables, assez importantes, il y a des terres que j'ai rangées dans la catégorie exploitation complète, parce qu'elle comporte une maison, un bâtiment, qui est le plus souvent une grange. Mais contrairement aux exemples que j'ai donnés à partir des superficies labourables et ici de la quantité de semences, le bail ne mentionne pas de cheptel apporté par le propriétaire et la superficie en culture semble minime. Les baux concernant ce type d'exploitation datent surtout des années de la décennie 1720, il ne faut pas s'en surprendre. Un exemple représente très bien d'autres situations. La situation d'une exploitation qui est vraiment de taille très modeste. Il s'agit de la location d'une terre qui, en superficie, peut sembler énorme, 231 arpents. Elle est située dans la côte Saint-Léonard, dans la zone rurale de l'île de Montréal. Et c'est la veuve du marchand Jean Soumande, qui était un marchand montréalais, Madame Chapeau, qui loue en 1723 à Étienne Brie, qui est également de Montréal, une terre de 231 arpents. Au moment où Brie loue la terre, il a 21 ans, il loue la terre en novembre, et il va se marier en février suivant. J'ai choisi cet exemple parce que, pour une fois, un notaire... parce que les conditions du bail supposent que ce qui était en exploitation soit décrit. Il y a sur cette terre 6 arpents dits de guéret. Il peut s'agir, bien sûr, de labour fait à l'été ou à l'automne, mais la suite de la description me laisse plutôt penser qu'il s'agit de la superficie labourable. Parce que, ce qui n'est pas incompatible par ailleurs, parce que la description se poursuit par la mention de 6 arpents à la pioche, ce qui correspond à une situation intermédiaire où les arbres ont été coupés, mais qu'il n'est pas possible de labourer à la charrue parce que les troncs, les souches, sont encore en terre. Et il y a aussi 3 arpents et demi de bois abattu, c'est-à-dire que le nettoyage n'a pas été fait. Le prix du bail, qui est d'une durée de 5 ans, c'est de transformer ces arpents en terre labourable et peut-être de les avoir labourés à la date de cession au mois de novembre, mais c'est pas très clair. Donc, entre le 77 arpents de terre labourable et le marché dont je viens de vous parler, l'exploitation sur laquelle porte le bail dont je viens de vous parler, vous voyez qu'il y a un monde. Donc, un marché de location diversifié, des terres à peine défrichées sont louées, tout comme des exploitations de bonne taille. Et à mon avis, il serait très étonnant que les propriétaires confient à de jeunes gens sans ressources ces exploitations de bonne taille, d'autant plus que, comme je l'ai mentionné, ces contrats qu'on appelle des baux à ferme comprennent la fourniture par le propriétaire du cheptel mort et du cheptel vif. Je n'ai pas parlé ici des autres types de biens fonciers loués, mais si vous voulez me poser la question, je pourrai y répondre. Je vais aborder maintenant les conditions du bail. Je vais parler exclusivement ici, encore une fois, des baux pour exploitation complète, tout en mentionnant au passage ce qui se passe dans le cas des autres types de biens fonciers. Alors, dans cette colonie où le dénuement était presque général au XVIIe siècle, les conditions qui prévalent pour les terres louées sont des conditions assimilables au métayage. Et cette tradition s'est maintenue même lorsque les exploitations qui étaient mises en location étaient conséquentes, comme dans les 6 exemples que je vous ai donnés. C'est donc le bailleur qui fournit tout, la terre, l'habitation, les bâtiments, le cheptel vif et le cheptel mort. Concernant le cheptel, c'est le cas de 130 des 210 baux analysés. Il peut s'agir évidemment d'un outillage très complet et d'un cheptel de plusieurs têtes, comme on a vu dans les cas des baux rédigés par Doulon Desmarais. Il peut s'agir aussi de quelque chose de plus modeste. Une ou deux vaches, un cheval, des fois même pas une charrue complète, mais mention de différents morceaux de métal composant une charrue. C'est évidemment une question qui me reste à creuser. Résumons en disant que dans 93 cas où le cheptel n'est pas fourni, il s'agit de terres louées indépendamment d'une exploitation ou de terres qui ressemblent à celles que je vous ai décrites, la terre prise en location par Étienne Bré, c'est-à-dire des terres où la mise en valeur est quasi nulle. En ce qui concerne les semences, elles ne sont mentionnées que dans 134 des 210 baux. Et lorsqu'elles le sont, c'est pour spécifier dans 72 cas que les semences seront fournies à moitié. Et encore, dans 33 de ces 72 cas, c'est le bailleur qui fournit la semence de la première année à charge pour le preneur de se faire rembourser. Cela me semble refléter un certain dénuement chez les preneurs. Encore ici, les cas où on ne discute pas de semences sont le fait de terres louées indépendamment d'une exploitation ou des terres dont la mise en valeur est quasi nulle. Dans ce dernier cas, le bailleur ne veut rien investir. Il attend de récupérer son investissement à la fin du bail parce que le preneur le paie en travail, c'est-à-dire en défrichement. Si on regarde maintenant les types de paiement, bon, on en voit plusieurs types avec des combinaisons. Mais ce qui domine, c'est le paiement en nature. Alors, la formule est toujours la même. À moitié de tout fruit, grain et croix, le preneur et le bailleur se partagent la moitié des grains, la moitié des écrois des chevaux, des vaches et des moutons. Et si le cheptel est fourni, s'ajoute à cela pour le preneur la ferme spécifique des vaches et des poules. C'est toujours la même chose, 10 livres de beurre, par vache par un et 12 œufs, une douzaine d'œufs et un poulet par poule par un. Moitié de la laine s'il y a des moutons. Les paiements en nature fixe sont exclusivement le fait de terres, je l'ai mentionné, appartenant à des mineurs, dont la mise en valeur est quasi, ou de terres dont la mise en valeur est quasi nulle, et où, on l'a vu, la location est payée en défrichement, en construction de fossés, construction de clôtures ou confection de fossés. Donc, jusqu'ici, l'analyse des clauses des baux n'a réservé aucune surprise. Je vois les têtes faire ça comme ça. C'est un système que vous connaissez déjà. Je vais essayer de vous faire quelques surprises par les derniers points que je vais aborder, en commençant par les réserves et les autres clauses. Pour les réserves et les autres clauses, il faut vraiment souligner la créativité des bailleurs. Selon leurs besoins, selon la distance entre l'exploitation louée et la résidence du bailleur, les réserves et autres clauses se multiplient. Un commerçant montréalais qui loue à plusieurs reprises la même terre, nommé Verdun, située au sud-ouest de la ville fortifiée, demande à chaque fois, avec une très belle régularité, que le preneur package et hiverne son cheval, qu'il n'utilise sans doute pas en ville, et donc il va le chercher sur sa terre lorsqu'il en a besoin, et package également ce qu'on appelle sa vache citadine, c'est-à-dire une vache qui n'appartient pas au cheptel qui est loué, mais qui est la vache qui fournit le lait de la maisonnée. Pierre Boileau, négociant de Chambly, spécifie à chaque fois qu'il loue son exploitation que le preneur est tenu de fournir le harnais et de le mener à chaque fois que le bailleur en aura besoin. Bien sûr, le preneur est payé 40 sols par jour, mais ce n'est pas rien, parce qu'à tout moment, il peut se faire ordonner par le bailleur de venir faire des journées de harnais. On peut penser que, quelquefois, ça pouvait être en opposition avec le travail sur l'exploitation. Il y a également des charrois, bien sûr les charrois pour la moitié des grains, etc., etc., mais il y a également ce que je pourrais appeler des surplus. Chaque fois que le seigneur de Lille, le séminaire de Montréal, loue un de ses domaines seigneuriaux, il oblige son bailleur à transporter, au début de l'hiver, 10 cordes de bois au siège du séminaire en ville. Ça n'a rien à voir avec l'objet même du bail. On profite de la location pour rajouter des exigences. Une clause de réserve qui étonne dans ce qu'on appelle un pays de grands espaces, les bailleurs sont très tatillons sur l'exploitation de la partie boisée de leur terre. On interdit la vente de bois, on circonscrit son usage au chauffage et à l'utilité de la terre, et on restreint l'espace où les coupes seront faites. Le bois doit être pris près des terres défrichées. Alors, il me semble que ces réserves révèlent une espèce de tension entre le désir d'avancer les défrichements, mais aussi celui de conserver le bois, une ressource dont certainement le marché existe, même si on le connaît très mal, il y aurait des recherches à faire là-dessus, et une ressource qui est d'autant plus profitable si elle est située près de la ville. Je passe maintenant à la durée des baux et à la prise de possession. C'est un sujet a priori peu susceptible de susciter des passions, mais là aussi il y a une surprise. Nous sommes en pays d'assolement biennal. Et pourtant, la majorité des baux durent 36 mois, et les baux de 2 ans ou de multiples de 2 sont très peu fréquents. Je n'ai absolument aucune explication à fournir, sauf la pesanteur culturelle. Ces gens viennent de l'Île-de-France, ils viennent de Normandie, ils sont habitués à des baux de 3 ans, ils continuent à faire des baux de 3 ans, même si ça n'a aucun rapport avec leur type d'assolement. La situation est un peu différente lorsque on regarde le mois d'entrée du preneur dans l'exploitation. Il y a une préférence pour le mois de septembre, la Saint-Michel, le 29 septembre. Il y a également à peu près autant de baux qui sont faits si on regarde le mois de mars et avril combinés. Lorsque il y a un ajustement à la situation canadienne. Le 29 septembre, les récoltes sont terminées. On est en pays de blé de printemps. Il n'y a pas de blé d'hiver. Le 29 septembre apparaît donc comme une excellente date pour changer de locataire. Le seul enjeu, quand la location est prise le 29 septembre, c'est le fourrage. Mais on résout le problème en mentionnant la quantité de fourrage qui est laissée pour hiverner les animaux, parce que tous les animaux sont hivernés à l'intérieur. Et on demande dans le bail, on prescrit qu'à sa sortie, le preneur devra en laisser autant. Quelquefois, on parle de guéret d'été, mais très peu. On pourrait se demander pourquoi quelqu'un qui sait qu'il va sortir de bail ferait des guérets d'été. La situation est différente dans le cas d'une prise de possession, d'une entrée au mois de mars ou d'avril. Quelquefois, il y a effectivement des guérets d'automne qui sont mentionnés. On pourrait me dire, mais si le preneur sait qu'il va sortir, pourquoi fait-il des guérets d'automne? Il y a peut-être dans certains cas ici, parce que ce n'est pas toujours mentionné qu'il y a des guérets d'automne, des preneurs qui pensaient poursuivre leur bail et qui, pour une raison qu'on pourrait penser qui est le partage des grains, qui se fait généralement en janvier ou février, s'est brouillé avec son propriétaire et a décidé de quitter. Ce sont des hypothèses. Je me suis un peu égarée par rapport à mon hypothèse initiale, c'est-à-dire la vaste gamme de biens en location, la possibilité qu'au 18e siècle, la mise en valeur des exploitations ait progressé et qu'il y a des gens qui aient choisi définitivement d'être locataires. J'ai aussi souligné tout à l'heure qu'il serait bien surprenant que les bailleurs des exploitations dont la taille est très importante confient à des jeunes gens sans ressources, sans expérience, leur exploitation. Bref, que des bailleurs choisissent des preneurs qui n'offrent pas de garanties, que ce soit des garanties financières ou des garanties d'expérience. Au départ, pour le prouver, j'espérais trouver dans les baux des clauses hypothécaires de nature générale, formulées par le preneur hypothèque tous ses biens, meubles et immeubles, tant présents qu'à venir. Seuls 17 des 210 baux portent une telle clause. Il faut bien donc penser que les propriétaires qui louent trouvent des renseignements ou ont des renseignements sur la réputation du preneur ou une préconnaissance des preneurs. Je pense que c'est tout à fait impossible que les bailleurs n'aient pas été sensibles à cette réalité. Et bien sûr, en témoignent quelques cas où de très jeunes hommes, souvent à deux d'ailleurs, des frères, prennent une exploitation en location, mais le père est là comme caution. Un témoignage éloquent se trouve dans un bail d'une exploitation à Pointe-aux-Trembles, à l'extrême est de l'île de Montréal. Le bail est passé en 1721 et c'est une exploitation de bonne taille. Le cheptel est décrit comme comprenant deux bœufs, trois vaches, deux chevaux, six moutons, 24 poules, deux coqs, deux daims même. Mais il n'est pas question de charrue. Le preneur est célibataire, il a à peine 20 ans. Ce qui est intéressant ici, c'est que il promet au bailleur, et non à ses parents, de garder avec lui ses parents. Germain Lemarié, âgé de 60 ans, et sa femme Jeanne Labattie. Le bail précise que le preneur promet de suivre les bons conseils de ses parents et qu'il ne peut les mettre dehors sans le consentement du bailleur. Ce souci des bailleurs, finalement, de confier leur exploitation à des gens qui offrent des garanties, sinon financières, mais d'expérience, c'est mon dernier point, se voit dans le portrait civil qu'on peut faire des preneurs. « 150 baux ont été signés dans la première et la dernière décennie de l'étude. En tout, il y a 159 preneurs, certains baux comportant deux preneurs. De ces 159 preneurs, j'en ai identifié 130. Je passe sur les merveilles informatisées dont nous disposons au Québec, si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai, qui m'ont permis un taux d'efficacité aussi élevé. » C'est pas parce que je suis chanceuse, c'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé, vous allez le voir si je vous en parle, c'est parce que nous avons des outils extraordinaires. Ce que révèle cette première analyse sommaire de ces 130 preneurs des années de la décennie 1720 et de la décennie 1770, c'est que les preneurs sont relativement âgés. L'âge moyen est de 39,7 ans, et que la plupart sont mariés. Pour l'anecdote, c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie « Portrait de groupe avec dames », deux de ces preneurs sont des femmes. Évidemment, je devrais poursuivre cette enquête, et je vais vous dire vers quoi je me dirige. Je vais évidemment poursuivre l'informatisation des baux manquants, donc des 500 baux manquants. Il y a évidemment des ajustements à faire à la base des données, particulièrement pour mieux saisir la notion de charrue complète, fournie ou non. Il reste aussi que je devrais étudier plus en détail la situation des biens loués, mais qui ne sont pas des exploitations complètes. Et du côté des preneurs, bien, il me reste à établir le dossier dont je vous ai parlé en début de cet exposé. Un dernier aspect sur lequel je veux insister, ça va être de suivre, en fait, de porter un regard particulier sur la mobilité. C'est très logique que cette population de locataires soit plus mobile que les paysans propriétaires. Et c'est une des impressions que j'ai eues en maniant les fiches de ces individus, les fiches de reconstitution de famille. Les preneurs des années 1770 et 1779 m'ont l'air de mourir dans des paroisses qui n'est pas la paroisse où ils ont pris la terre en location. Et à l'œil comme ça, les paroisses que je vois sont des paroisses au sujet desquelles je sais que c'était des paroisses de colonisation, donc des terroirs pauvres. Et mes preneurs ont l'air d'aller mourir aux marges, finalement, du territoire occupé. Alors, j'ai hâte, évidemment, de confirmer cette impression qui vient d'une observation des données, mais nullement d'une analyse systématique. Je vous remercie.